Jeunesse influente.
Jeunesse influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis, 14h-15h sur O2 Radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur O2 Radio 91.3 sur la bande FM pour ce nouveau numéro de Jeunesse Influente présenté aujourd'hui par Ion et moi-même. Aujourd'hui, on parle évidemment de jeunes influents, mais surtout d'associatifs. Je peux commencer par vous donner un petit chiffre clé. La plateforme Elo Asso a établi un classement des villes françaises selon leur dynamisme associatif, en plaçant Bordeaux en première position avec 548 nouvelles associations créées en 2023. Bordeaux est en plein essor associatif, si on peut le dire, et donc on a le plaisir de recevoir aujourd'hui des jeunes étudiants de l'Université de Bordeaux qui sont engagés activement dans différentes associations. Et je laisse la main à Ion pour les présentations.
Eh bien, bonjour à vous tous qui nous écoutez et bonjour à vous aussi autour de la table. On reçoit du beau monde aujourd'hui. Donc nous sommes en compagnie de Valérie Roberecht, chargée de développement des terrains d'engagement. Bonjour.
Bonjour Ion.
Nous avons aussi Mickaël Larivière, vice-président et étudiant de l'Université de Bordeaux.
Bonjour.
Lucie Housseau, présidente de l'AJEB, l'Association étudiante de juristes et économistes de Bordeaux.
Bonjour.
Et Victor Lamarre, trésorier de la Fondation Athéna.
Bonjour.
Voilà pour les rapides présentations. On reviendra bien sûr sur vous. Alors avant de commencer les questions, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que vous faites et aussi vos différentes associations ? Parce que je suppose que dans les gens qui vont nous écouter, vous ne connaissez pas forcément. Donc dans l'ordre que vous voulez, comme vous souhaitez, vous nous parlez un peu de ce que vous faites. Et voilà.
Donc Valérie, je suis en charge de développer les terrains d'engagement à l'université. Je suis personnelle administrative de l'université. Et ma mission, c'est d'encourager les étudiants de l'université à s'engager dans différentes structures, que ce soit des associations étudiantes, des services et composantes de l'université ou encore à l'extérieur dans des associations externes comme, je sais pas, pour vous citer les Restos du Cœur, la Banque Populaire, mais aussi des associations engagées dans le mentorat, dans le développement durable, etc. Voilà, donc pour ça, je me suis entourée d'une team d'ambassadeurs engagement étudiant. Vous avez deux spécimens là à côté de moi, Lucie et Victor, voilà, qui m'aident dans cette mission-là. Donc on fait des temps de différents temps, différents événements au sein de l'université pour parler engagé et pour que ils puissent témoigner de leur engagement. Voilà, je leur laisse la parole. Si un petit truc que je voulais rajouter, pardon, c'est vous dire que l'université valorise ses engagements de ses étudiants en proposant une reconnaissance. On a une UE engagement qui permet à ses étudiants de valoriser leur parcours d'engagé. Et puis, on est en train de réfléchir à d'autres types de valorisation. Je peux parler des badges numériques, voilà, pour vous donner une petite idée de la suite. Allez, à vous.
Bonjour, alors moi c'est Lucie, je suis donc présidente de l'Association des juristes et économistes de Bordeaux, donc c'est une association qui représente les étudiants en droit et en économie et en AES sur le campus Montesquieu de l'Université de Bordeaux qui se situe à Pessac. Et on a pour vocation d'animer le campus, de les représenter aux différentes instances de l'université, de les représenter territorialement, régionalement et nationalement, de défendre leurs intérêts et de leur proposer de la culture, de leur proposer des événements sociaux, enfin de répondre à tous les divers besoins des étudiants et d'animer leur vie étudiante et de leur rendre plus facile. Voilà.
Quant à moi, du coup, je suis trésorier de la Fédération Athéna. On a plusieurs objectifs, dont les principaux sont la représentation étudiante, de l'ensemble des étudiants du territoire. Donc ça passe par les élus, par l'information, par beaucoup de domaines. On a aussi un grand côté au niveau de la solidarité avec une épicerie solidaire dont vous avez déjà parlé dans cette émission.
Oui.
Et puis tout ce qui va être précarité étudiante, on va faire en sorte que la vie des étudiants soit plus simple et plus accessible à tous. Pour faciliter les études de chacun. Et puis un rôle de fédération, c'est pouvoir réunir un maximum d'associations, de personnes engagées, d'élus, pour pouvoir bosser tous ensemble et aller plus loin dans les projets, dans les thématiques abordables.
Bonjour, Mickaël. Du coup, moi, je suis le vice-président étudiant de l'Université de Bordeaux. Donc, mon titre complet, c'est vice-président étudiant du Conseil académique de l'Université de Bordeaux. C'est-à-dire que je suis un personnel politique de l'université, donc je suis un élu étudiant. J'ai donc un mandat de 2 ans. Et donc, ma mission, c'est de me prononcer sur les questions de formation, vie universitaire, vie de campus, recherche. C'est tout ce que englobe le Conseil académique. Et donc à ce titre, bah, je suis amené à travailler beaucoup avec Valérie, avec les associations et à bien entendu favoriser l'engagement au sein de l'Université de Bordeaux.
Très bien. Il me vient donc une question en vous ayant entendu. Comment on fait si on veut vous rencontrer ? J'ai pensé en t'écoutant Valérie, tu disais que vous intervenez dans les classes, dans les amphis, etc. Mais si jamais on peut vous rencontrer en fait, comment on s'y prend ? Je me mets à la place des étudiants qui aimeraient potentiellement vous rencontrer. Où est-ce qu'il faut aller ?
Alors, on a une adresse mail, engagementetudiant@u-6bordeaux.fr. Après, les associations étudiantes ont des locaux, certaines associations étudiantes. La JEB pourra vous en parler, Lucie. Donc, on peut aller sur place, toquer à la porte. On est toujours bien, bien accueillis. Les permanences, on fait des permanences en bibliothèque universitaire tous les premiers mardis du mois, entre midi et 2. On est en train de développer aussi d'autres événements et d'être associé à des événements des bureaux de vie étudiante. Pareil, porte d'entrée, le bureau de la vie étudiante, il y en a sur nos 4 campus, puisqu'on est présent à Talence sur sciences et technologies, à Pessac, droit, sciences éco, gestion, à La Victoire pour sciences de l'homme et à Carrère pour les métiers de la santé. Donc, porte d'entrée, bureau de vie étudiante et directement les associations étudiantes sur place. Voilà.
Ok.
Moi, j'ajouterais que donc déjà, oui, toutes les associations, enfin les plus grandes associations des campus ont généralement un local sur les campus eux-mêmes. Au campus de Pessac, il y a un couloir avec 8 associations qui ont chacune leur local. Tous les étudiants savent très bien qu'ils ont juste à toquer à la porte, on leur ouvrira et on répondra à toutes leurs questions pour les rediriger et les aider. Et puis même, nous, en tant qu'association, chaque début d'année, on organise une semaine d'intégration où on intervient dans les amphithéâtres et on leur fait bien voir qu'on existe et on leur fait découvrir ce que c'est que la vie étudiante, notamment pour les premières années.
Et puis plus que ça, on a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, donc Instagram, alors Facebook, ça se fait plus trop en ce moment avec les étudiants, mais on a plein de façons de nous contacter. On essaye d'être le plus réactif possible pour répondre aux questions, aux informations, etc. Et puis on reste aussi étudiant, donc c'est aussi du bouche à oreille, où nous aussi on va en classe, on a des amis de fac, et petit à petit, ça parle à droite à gauche pour comprendre qu'est-ce qu'on fait et quel intérêt ça a de venir nous voir.
Très bien. Et donc vous, aujourd'hui, qui êtes très actif dans le monde associatif, comment vous êtes entré justement dans ce monde ? Par quel biais ? Est-ce que, pareil, c'était le bouche-à-oreille ? Ou est-ce que c'est de vous-même, face à une problématique, vous vous êtes dit « Ah ben, il faudrait que je trouve une solution » et donc vous êtes tourné vers la vie associative. Comment vous avez fait, en fait, pour rentrer
Pour ma part, c'est quand je suis arrivée en première année, justement, l'AJEB organisait déjà ses semaines d'intégration et je me souviens de ce premier jour de droit privé où ils ont éteint toutes les lumières et sont rentrés avec de la musique et tous déguisés à fond dans l'amphi à mettre l'ambiance. Et je me souviens les avoir vus et m'avoir dit « Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que ça va être ?» C'est ça la faculté du coup. Mais qu'après, au fur et à mesure, j'ai eu le courage de me pointer justement au local, d'aller les voir, d'aller leur parler, leur demander ce qu'ils faisaient. Et puis également de finalement devenir amie avec l'un d'entre eux. Et au fur et à mesure du temps, ils m'ont dit si t'es tout le temps intéressée par le monde associatif, est-ce que ça te dirait de nous aider sur ce projet-là ? La JEB organise des galas chaque année. C'est un gros événement pour célébrer la fin de l'année d'environ 1000 personnes. Et ils avaient besoin d'aide pour la communication. Donc c'est par exemple moi qui ai fait les petits menus sur les tables. Et voilà, ça commence comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis présidente de cette association. Voilà.
Ouais, on est tous un peu rentrés comme ça aussi. Moi, ça a été, j'ai été tracté pour le week-end d'intégration de ma précédente association. Je venais de descendre de Seine-et-Marne, je ne suis pas d'originaire de Bordeaux, donc quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. On est venu me voir en me tendant un tract, en me disant « Viens, c'est le week-end d'intégration, tu vas rencontrer du monde, tu vas t'intégrer, ça va être génial. » Donc du coup, vu que je connaissais ces personnes, je suis venu. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai rencontré l'équipe. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de venir à une de leurs réunions, à une assemblée générale. Et on m'a proposé d'abord d'être membre actif. Et petit à petit, j'ai continué.
Oui, je pense qu'on a à peu près tous une expérience similaire. Bah, pour moi, ça a été un petit peu soirée parrainage, donc quand je suis entré en psycho à l'époque, donc sur la victoire. Et le président de l'époque, futur président de l'époque, est venu me voir et m'a dit « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper des partenariats, tu veux le faire ?» On ne se connaissait pas spécialement. Bah, j'ai dit « Allez, go !» et puis je me suis retrouvé là-dedans.
Je peux rajouter quelque chose parce que j'ai interviewé pas mal d'étudiants engagés justement pour savoir comment ils étaient arrivés à l'engagement. Le mot qui revient souvent, c'est traquenarder. Hein, vous confirmez, voilà, il y a eu un moment où effectivement ils ont été happés par un copain, par quelqu'un qui passait, et ils ont mis un pied dans l'associatif, dans l'engagement, et puis après ils y ont pris goût. Souvent c'est pour aussi rompre l'isolement hein, des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui ont besoin de créer du lien. On retrouve aussi comme facteur commun, ils ont souvent été délégués de classe, ils ont fait du scoutisme, voilà, il y a quand même, ou les parents qui eux-mêmes étaient engagés et qui ont donné un peu cette envie, hein, voilà, c'est un peu ce que je retrouve.
J'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit, je trouve que c'est vrai, c'est vraiment la volonté de rencontrer du monde et la rupture avec l'isolement, parce que ça me fait écho à ce que tu viens de dire. Moi je venais d'Alsace, j'arrivais à Bordeaux, je connaissais absolument personne, j'avais traversé la France, j'en avais aucune idée, je connaissais personne, et je me suis dit, les associations étudiantes c'est finalement le moyen de rencontrer des gens, de répondre à mes questions, même sur comment fonctionne l'université, la fac, et en fait c'est de fil en aiguille, et puis malheureusement quand tu mets un pied généralement tu finis en entier dedans.
Très bien. Et du coup, pareil pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas forcément, est-ce que vous pouvez expliquer le fonctionnement des associations en général, s'il y a une hiérarchie, etc. Et s'il y a aussi des spécificités concernant vos différentes associations ou autres, des petites caractéristiques dont on peut faire part?
Alors, l'organisation d'une association, ça dépend de chaque association, mais en général, on y retrouve à peu près le même schéma. On va retrouver un bureau restreint composé du président, trésorier, secrétaire, qui peut s'élargir un peu au vice-président, vice-secrétaire, trésorier adjoint. Et après, on va avoir un bureau avec ce qu'on va appeler les VP, les vice-présidents, qui vont être chargés de la communication, des partenariats, de l'événementiel, du tutorat, ça peut être un peu de tout et n'importe quoi. On va avoir le conseil d'administration, qui va voter la ligne directive de l'association, ce qu'elle doit faire. Donc ça va être les budgets, ça va être les soirées, ça va être les événements, donc les votes assez importants pour ce que va faire l'association. Et enfin, les membres actifs pour certaines associations, où là, ça va être des aides, des mains qui vont venir aider sur les événements, qui vont pouvoir aussi aider à l'organisation des événements. Mais c'est une hiérarchie qui existe seulement au niveau papier, souvent, dans les associations, même si le bureau OBR prend beaucoup de travail, il n'y a pas généralement une voix qui prime par rapport aux autres et une hiérarchie vraiment directe comme on pourra retrouver dans une entreprise.
Ok, très bien.
Ah bah, je voulais juste ajouter que, par exemple, la différence on va dire, entre la JEB et Athéna, c'est que certes, le fonctionnement d'une association va rester le même, puisqu'il faut une secrétaire, il faut un trésorier, il faut un président absolument pour créer une association. Mais que ça dépend après de la spécialité sur le reste du fonctionnement. Quoi. Il y a des associations plus petites qui ne vont pas avoir un conseil d'administration énorme, comme il y en a qui vont en avoir un très très grand, et qui ne vont aussi pas avoir les mêmes missions. Nous, on agit localement pour notre campus, là où Athéna agit sur tout le territoire aquitain et qui soutient toutes les associations et tous les types d'associations. Donc voilà, c'est aussi différent dans ce sens-là.
Oui, ça dépend de différents facteurs pour choisir comment ça fonctionne. Très bien. Et je me demandais, parce que j'y pense un peu en retard par rapport à tout à l'heure, quels sont vos moyens en fait de recruter? Parce que bon, il y a les tracts, etc., il y a les réseaux sociaux, mais bon, bouche à oreille, etc. Mais est-ce que ça va les recrutements? Parce que bon, on a vu avec Noé, il en parlera tout à l'heure, que d'après certains chiffres, les étudiants ont tendance à plus s'engager de nos jours. Niveau recrutement, en fait, vous faites comment du coup? Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de personnes qui vous rejoignent par rapport à avant, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce point-là?
Moi, je dirais que déjà, comment on fait pour recruter justement nos moyens d'action, nos soirées, nos événements sur le campus nous font connaître Et les étudiants, des fois, viennent d'eux-mêmes nous dire « J'aimerais vous aider, j'ai pas juste envie de profiter de cette soirée. Est-ce que je peux vous aider à distribuer des bracelets, à faire les entrées, à gérer la sécurité ? Est-ce que je peux aider à... Vous faites une vente de gâteaux, est-ce que je peux faire un gâteau pour vous aider ?» Les gens sont aussi très demandeurs et viennent nous voir. Mais après, on peut aussi organiser des... Enfin, je sais que nous, on appelle ça les apéros recrutement. On va organiser dans un bar, par exemple, une rencontre et ils peuvent venir nous voir et on leur explique nos différents pôles. Si on a des projets qui vont arriver pour leur dire que sur ce projet-là, on va avoir besoin particulièrement de monde, et dans ce cas-là, s'ils ont envie de nous aider, ils peuvent. Les locaux restent un endroit, quand ils viennent nous voir au local, c'est généralement aussi pour nous dire j'ai envie de vous aider, comment je peux faire. Lors de nos conseils d'administration, on peut les inviter s'ils ont envie de venir et de voir. Une assemblée générale sert aussi à ça, à inviter tous nos adhérents pour qu'ils découvrent aussi l'envers du décor, parce que forcément, ils voient la soirée, le moment où on profite de l'événement, mais il y a tout ce qui est précédemment, il faut l'organiser. Donc voilà.
Si je peux rajouter quelque chose, au-delà des moyens que les assos mettent en œuvre également, l'université aussi met des moyens en œuvre pour aider les associations à recruter. On peut penser notamment à Fête la Rentrée, qui est un rendez-vous annuel. Tous les ans, il y a Fête la Rentrée qui permet de mettre en lumière les associations du campus, puisque généralement, c'est basé sur le campus, les Fêtes la Rentrée.
Et ça consiste à quoi, cet événement ? C'est quoi, en fait ?
Je crois que... Non, d'accord. Ce sont c'est un événement, donc ça va dépendre plusieurs formes suivant les campus. Donc là, par exemple, sur le campus de droit, on avait un village associatif, on avait un concert le soir. Sur la Victoire, il y avait également un grand village associatif, il y avait distribution de nourriture également gratuite. En fait, l'objectif, c'est vraiment de donner une scène aux associations. Et c'est ça que va faire l'événement.
On a aussi le Festival des Engagés qui se déroule tous les ans fin novembre avec un village des engagés déployé sur nos 4 campus où là, de la même manière, les associations étudiantes vont être représentées, vont pouvoir parler de leur mission, recruter à ce moment-là. On aura aussi des associations extérieures, des services et composantes de l'université. Et puis tout nouvellement, là, depuis le 12 novembre dernier, l'université a lancé la plateforme du réseau communautaire de l'UB, Université de Bordeaux. Vous la trouvez facilement en tapant ça dans la barre de recherche Google, c'est Alumni Bordeaux. Et là-dessus, nos étudiants actuels et les anciens, nos fameux alumni, vont en se connectant pouvoir trouver des offres d'emploi, des offres de stage et des offres d'engagement, donc bénévolat, service civique, emploi étudiant et volontariat international. Voilà.
Okay. Et pour ce qui est de est-ce qu'il y a plus d'étudiants qui s'engagent, je pense qu'on n'a pas une assez bonne vision parce que, je ne sais pas pour mes collègues, mais je crois qu'on est tous un peu arrivés juste après le Covid. Donc, il y avait toute cette période où les associations étaient moins actives parce qu'il y avait moins de monde, on pouvait faire moins d'événements. Et moi, je suis arrivé juste après cette période. Donc, j'ai vu une réaugmentation de l'engagement étudiant, mais notamment parce qu'avant, il n'y avait pas un gros engagement dû au Covid.
Vous avez un peu dit que l'Université de Bordeaux essayait d'aider le plus possible les associations à se développer. Quand on est allé voir il y a quelques semaines, je crois que c'était même il y a un mois, pour une émission précédente, on parlait de précarité étudiante. On était allé voir le nouveau local comptoir d'Aliénor par la Fondation Athéna. Et donc, avant, l'épicerie solidaire était un peu reclue dans le campus. Elle faisait partie du campus, mais elle était à l'écart. Là, maintenant, elle est dans le campus intégrée vraiment. Donc, il y a une volonté vraiment d'être liée entre l'université et les associations. Comment vous faites pour essayer de développer ça un maximum, notamment avec ce nouveau local ?
Alors, oui, ce nouveau local, bon, ça a été un long travail, plusieurs services qui ont travaillé dessus pour remettre en état ce local, parce que bon, sur l'université, on a des problématiques, on ne peut pas pousser les murs, donc quand on veut installer quelqu'un, il faut forcément trouver un endroit qui vaille le coup. Après, au niveau de l'université, donc comme l'a dit Valérie, on a plusieurs événements annuels qui vont permettre de vraiment mettre en lumière les associations. On a donc les terrains d'engagement, les plateformes qui sont mises en place. Et puis, les associations peuvent se faire domicilier à l'Université de Bordeaux, ce qui leur permet d'avoir un statut particulier, de pouvoir avoir les locaux de manière gratuite, qui leur permet également de s'inscrire au FSDIE, qui est un fonds d'aide pour les projets. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là mises bout à bout qui permet vraiment en fait, de faire un vrai lien de partenariat entre les associations et l'université.
Et puis je dirais qu'il y a aussi le bureau de la vie étudiante qui a comme rôle de nous soutenir aussi. Et puis les vice-présidents de campus qui ont aussi le rôle de nous soutenir. Mickaël est vice-président mais de centrale, donc de toute l'Université de Bordeaux, là où les vice-présidents de campus sont sur chaque campus et ont l'objectif de nous soutenir et de nous aider, nous les associations, et de répondre à nos besoins.
Ok. Et... justement, Mickaël, tu parlais que les locaux, ils étaient mis à disposition quand l'association est dans l'université. Mais sinon, pour les autres, ou même en général, comment une association lève des fonds ? Comment elle peut justement avoir ce qu'il faut pour répondre à des besoins ? Alors, par exemple, je pense au comptoir d'Aliénor. Comment vous faites, vous, pour avoir, votre magasin ? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, plein, par exemple.
Alors pour avoir tous ces fonds, ça passe notamment d'abord par l'Université de Bordeaux qui nous aide avec des fonds, comme le disait le FSE, la CVEC aussi qui est utilisée pour tout ça. Mais après, ça va être des appels à projets de la ville, du département, de la région. Ça va être trouver tout ce qui coûte un peu moins cher. Donc on a aussi un partenariat avec la Banque Alimentaire. On essaye d'avoir des partenariats avec des intermarchés, des Auchan, Carrefour, etc. pour pouvoir récupérer certains produits. Ça va être des collectes de dons alimentaires devant, pareil, ces supermarchés. Donc on cherche un peu à droite, à gauche pour pouvoir avoir cette épicerie qui marche et qui roule, tout simplement.
Et je vais en profiter, Victor en a très rapidement parlé, pour développer un petit peu sur la CVEC, donc la contribution vie étudiante et vie de campus. C'est une contribution qui est payée par les étudiants en début d'année et qui permet en fait d'avoir véritablement une dotation qui est sanctuarisée et fléchée pour la vie étudiante et qui permet vraiment d'avoir des initiatives. Donc on a le budget participatif étudiant par exemple à l'université qui est nourri par la CVEC, qui permet du coup aux étudiants de proposer des projets qui sont ensuite mis au vote et qui sont financés donc par la CVEC. On a également la santé qui est en partie financée par la CVEC avec l'espace santé étudiant. On a le sport. Enfin bref, c'est une dotation qui est vraiment très utile. Et bien entendu, les associations via le FSDIE sont financées aussi par la CVEC.
Ok. Et là, j'ai une question un peu imaginaire. Imaginons que vos associations respectives aient un fonds illimité. Qu'est-ce que vous feriez de tout ça ? Quel projet, là, de suite, vous avez envie de mettre en place ?
Quel rêve ! Quel rêve en fonds illimités ! Plein de choses, je pense.
Ouais, je pense qu'on a plein d'idées qu'on aimerait tous mettre en place en association. Je pense qu'on retrouve souvent des profils de personnes qui ont une imagination débordante pour des projets.
Très créatifs.
Très créatifs et qui ont toujours des problèmes à devoir régler. Avec plein de projets qui pourraient être utiles.
Et la trésorerie est souvent le frein premier, en fait.
Exactement. Ouais, en tant que trésorier, je suis le premier à dire ce projet peut être compliqué à organiser, on va peut-être réduire un petit peu. Mais je pense que l'une des premières choses avec un fonds limité, ce serait augmenter l'épicerie, en ouvrir de nouvelles. Et puis, ce serait, je pense, mon premier projet si j'avais fonds limités.
Moi, je pense que pour la JEB, on organiserait notre gala qu'on ne va pas pouvoir organiser cette année par manque de trésorerie, justement.
Ah ouais.
Et puis, je pense qu'on organiserait des voyages aussi. Ça serait bien d'organiser des voyages.
Au titre de l'université, je me souviens qu'on a fait un temps de cohésion comme ça avec des étudiants engagés pour savoir, en étant open bar, qu'est-ce que vous feriez pour promouvoir l'engagement, faire en sorte que plus d'étudiants s'engagent. Il y avait eu l'idée du bus de l'engagement, un bus qui sillonnerait les campus avec dedans des étudiants engagés qui parleraient, qui témoigneraient de leur engagement, qui diraient pour s'engager, comment faut faire, à quoi ça sert de s'engager, parce qu'il y a plein de trucs, vous n'avez pas encore posé la question, je l'attends, mais à quoi ça sert de s'engager et comment ça peut servir à sa personne, à son parcours de formation, à son insertion pro, mais j'attends la question.
Bah, On peut rebondir dessus, on peut rebondir, tant qu'on y est, on ne va pas passer à autre chose en attendant. Voilà, bah à quoi ça sert du coup de s'engager?
Est-ce que vous voulez répondre?
Bah, je pense qu'il y a tellement de trucs, je pense qu'on peut tous y répondre un par un.
Si tu veux, je t'en prie, Victor.
Ok. À quoi ça nous sert? Déjà, c'est toujours une ligne en plus sur le CV. Pour commencer, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience à acquérir. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en association. Je ne suis plus le même qu'avant et j'en suis bien content de toute l'expérience que j'ai pu acquérir, que ce soit par mon rôle de trésorier, donc gestion financière et tout, mais il y a gestion de projet, gestion d'équipe, c'est monter un projet. C'est beaucoup de compétences qu'on va acquérir, c'est des relations humaines aussi, comment on parle avec les autres, comment on communique, comment on travaille ensemble. La communication interne, on a tendance parfois à le sous-estimer, mais c'est super important.
Et quand c'est le plus important.
Ouais, c'est même le plus important. Et quand on ne sait pas comment faire, ça peut vite tourner au vinaigre. Et puis aussi le réseau qu'on peut se faire. Voilà, moi, je suis en biologie, mais voilà, je rencontre des gens de droit, de psycho, de médecine. Donc c'est aussi comme ça que j'ai réussi à trouver le master que je voulais.
Et puis après, là, moi ça m'a un peu étonné, tu as dit en premier la ligne pour le CV, mais moi je trouve qu'il faudrait jamais faire de l'associatif pour la ligne sur le CV.
Bien
parce
sûr.
Que on vient avec les mauvaises raisons. C'est avant tout du volontariat déjà, donc c'est du don de soi énorme. Et oui, c'est une expérience qu'on va acquérir qui va être
inoubliable,
c'est clair. Et on rencontre des gens, sûrement aussi l'un de nos meilleurs amis, enfin, on rencontre plein de gens, c'est merveilleux et c'est des opportunités inouïes. Enfin, si j'avais pas été. Je ne serais pas là aujourd'hui, par exemple. Je n'aurais jamais fait pour la première fois de la radio. Enfin, c'est des expériences folles et c'est des opportunités géniales. Mais c'est surtout beaucoup de dons de soi. Et je sais que l'associatif peut parfois paraître ingrat, dans le sens où on donne et on reçoit en se nourrissant des autres. Mais la reconnaissance n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on a l'impression de donner. Donc ça peut paraître ingrat dans ce sens-là. Donc c'est pour moi, dans ce sens-là, que je dis qu'il faut le faire en ayant très, très envie de le faire et avec beaucoup de cœur, je dirais. Et pas pour la ligne sur le CV, sinon on va très vite être déçu de la ligne du CV.
Parce que justement, c'est hyper valorisant d'être engagé dans des associations, mais est-ce que ça vous apporte personnellement? Est-ce que vous arrivez à le mettre en lien avec vos études, selon vos spécialités, comme tu as dit en biologie, pour trouver les... Enfin, c'est fait un peu pour ça, d'essayer de trouver le poste à la personne qui est dans ces études-là et tout.
Oui, après, je pense que, pardon, au-delà de ça, comme le disait Victor, même si ça ne nous aidera pas nécessairement pour nos études, ça nous aidera pour toute la vie parce que moi, je l'ai vu, avant d'être présidente, je gérais les partenariats, j'ai dû faire un contrat. Je pense que n'importe qui un jour aura un contrat entre les mains et savoir le lire. Enfin, moi, je suis en droit, donc ça me parle énormément, mais quelqu'un qui n'est pas en droit, qui apprend à faire un contrat, à le lire, à savoir ce qu'il faut absolument y mettre dedans, ça lui servira toute sa vie. Comprendre comment fonctionne la trésorerie d'une association, ça cédera soi-même pour ses propres comptes. Et puis même juste le secrétariat, tout ce qui est administratif, déclarer une association en préfecture, c'est déjà connaître un petit peu le monde de l'administratif qu'on aura à gérer plus tard. Donc je pense que même si c'est pas toujours lié à nos études, on en retire forcément du positif pour notre vie quotidienne et pour notre futur travail, car même si ça sera pas nécessairement lié à notre travail, comme disait Victor, le travail d'équipe, c'est essentiel. Savoir travailler en équipe, savoir gérer des projets, c'est aussi beaucoup de management à mon échelle. Donc tout ça nous aidera forcément dans notre travail plus tard.
Ça se retrouve partout.
Oui, c'est ça. C'est finalement des expériences qui sont extrêmement concrètes et qui servent toute la vie. Et puis bon, dans mon cas, par contre, j'ai réussi... en l'occurrence à le mettre en relation avec mes études. Bon, je triche peut-être un petit peu, parce que je suis élu étudiant et je suis en sciences politiques. Donc voilà, sciences politiques, je suis en master sciences politiques, on est spécialisé dans les politiques publiques. Et forcément, en tant que vice-président étudiant, je suis en plein dedans. Donc je vois l'application et je l'étudie en même temps, donc c'est parfait. Mais au-delà de ça, même quelqu'un qui n'est pas en sciences politiques, qui veut faire vice-président étudiant, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui vient de bio ou n'importe quoi, finalement, c'est une expérience humaine totale et qui ouvre beaucoup de possibilités par la suite.
Je rebondis sur le développement des compétences. Effectivement, ils ont des formations, parfois, effectivement, Victor est en biologie. À côté de ça, il est trésorier. Il va développer d'autres compétences. Des fois, ça renforce leurs compétences de leur parcours de formation. Mais pour beaucoup, ça développe d'autres compétences. Et pour avoir été recruteuse dans ma vie, eh ben, c'est vrai que à parcours de formation équivalent, quelqu'un qui a été engagé et qui a eu on le choisira. Enfin, moi, ça m'est arrivé pour ses valeurs aussi personnelles, parce qu'être engagé, c'est aussi avoir, j'allais dire, des putains de valeurs, excusez-moi du terme, mais voilà, il y a quelque chose, c'est le don de soi, tu le disais. Voilà, je sais ce que c'est puisque je suis engagée dans une association qui s'appelle Télémac, où je fais du mentorat auprès d'une jeune fille qui est une jeune lycéenne. Voilà, donc je sais ce que c'est aussi. Donc c'est aussi pour ça que s'engager, c'est important, au-delà du don de soi. Tu disais la ligne du CV, c'est vrai que j'en parle aussi souvent. Je dis aux étudiants, ça va sublimer votre CV. N'oubliez pas de noter que vous avez toutes ces compétences-là en plus.
Puis après, l'université a mis en place du coup une UE, donc c'est une unité d'enseignement, il me semble, engagement étudiant, qui permet aux étudiants engagés de suivre ce cours. Enfin, c'est dispensé comme un cours sur notre plaquette de formation. Et ça nous permet d'avoir des TD. J'ai mon premier cours samedi matin. Et en fait, qui va nous apprendre à justement mettre toutes nos compétences qu'on a apprises en œuvre et au service de notre futur projet, de nos projets d'avenir. Et notamment, c'est pour ça que c'est proposé en troisième année, puisque je suis en troisième année, pour nos masters, et le mettre en œuvre et montrer que justement tout ce qu'on a appris, ça sera valorisé et qu'il faut le mettre, faut le mettre en évidence et que c'est important. Donc l'université nous accompagne aussi en ayant mis en place ce cours-là. Enfin, c'est pas nécessairement un cours, mais ce soutien-là pour que même dans notre diplôme, quoi, ça sera marqué à la fin qu'on a fait ce parcours-là et que ça a été valorisé, quoi.
Souvent aussi au niveau des masters, quand vous candidatez, il y a pour beaucoup, il y a une question, êtes-vous engagé ? Ça peut faire la différence aussi.
Merci à tous pour cette première partie d'émission. On va marquer une courte pause musicale et après on reviendra pour continuer cette discussion hyper enrichissante. Donc on va marquer une petite pause avec un son de Danil qui s'appelle Blédi mon amour, extrait du projet Redma 3. On l'écoute.
Elle me manque, les baraquinages faits sur le bord de la route. Elle me manque, la brise d'été qui fait boussa sur la joue. Elle me manque, les nuits blanches sur le stahlé d'Enki Dunder. Les dortoirs dans le salon, 4x4 par fauteuil. Elle me manque, les touches sur le toit quand on rentrait de la plage. Elle me manque, les virées dans le coffre quand y'avait pas de place. Elle me manque, la voix du marchand qui réveille toute la rue. Les coupures de courant, les bougies qui s'allument. Qu'est-ce qu'elle devient, j'y pense tous les jours. Qu'est-ce qu'elle devient, Zahir, mon amour. Qu'est-ce qu'elle devient, j'y pense tous les jours. Mon amour, mon amour. Je peux plus les compter. J'ai des souvenirs, mais j'ai déjà tout raconté. Flash, flash, j'ai quelques flashs. À la moindre odeur, le moindre son, la moindre image. Quand je vois passer une 206 bleue. Quand je sens l'odeur de la terre quand il pleut. Quand j'entends la sonnerie du fixe. Quand je passe par le marché sous la ligne 2. Quand ma grand-mère prépare de la rajta. Quand le vendredi on garde à l'asa. Quand je me rends compte que rien n'a j'ai chance. Ça pour le dog, y'en a plus Bertrand. Quand j'écoute du mal ou du chemin. Quand j'écoute 113 ou chez mamie. Quand le mariage dure 48 heures. Quand je t'arrête tellement qu'on a ma longueur. A chaque victoire avec les filets. Je vais sur les champs pour me sentir au bled. Le 14 juillet j'y pense toujours. Car les pétards me rappellent le jour du Mouloud. Qu'est-ce qu'elle devient, j'y pense tous les jours. Qu'est-ce qu'elle devient, Zahir, mon amour. Qu'est-ce qu'elle devient, j'y pense tous les jours. Mon amour, mon amour.
Se prendre un billet pour revenir, c'est promis. Même si j'ai vu en ce moment les prix, c'est de la folie. Je te raconte pas d'histoire, Roya, je suis pas Pierre Castor. Mais ça fait 5 ans que j'ai pas vu ma famille pour une histoire de passeport.
C'était Daniil avec Blady Mon Amour, extrait du projet Redma 3. Daniil qui sera en concert d'ailleurs demain soir à la Rock School Barbé. Il reste quelques places, profitez-en. On est toujours sur O2 Radio et dans Jeunesse Influente. Et donc avant la pause musicale, on parlait de l'importance de valoriser cette expérience associative et surtout le don de soi qui est super important, et je crois qu'il y en avait une question par rapport à ça.
Ouais, justement, en fait, je voulais vous demander à hauteur de combien d'heures par semaine vous contribuez dans vos différents postes, parce qu'en fait on se rend pas forcément compte. Bon, vous êtes étudiant, donc vous avez bien évidemment vos journées d'étudiant habituelles, mais en plus de ça, sur une semaine, est-ce que vous arrivez à quantifier le travail que vous faites en dehors du coup de vos études simplement, quoi? Je vois que ça réagit un peu autour de la table, ça rigole un peu.
Sacrée question, effectivement.
Moi, je dirais que ça varie déjà des semaines, parce qu'en part de partiel, on va dire que l'associatif, je le mets largement de côté pour réviser mes partiels, en toute évidence. On reste étudiant avant tout. Mais que là, par exemple, là, sur les deux semaines qui arrivent, je suis facilement à 20 heures d'associatif par semaine.
C'est quasiment cumuler deux jobs en même temps pour certains mandats. Où il y a tellement de choses à faire et bon, bah, parfois on n'est pas assez nombreux, donc forcément c'est cumulé et les études et c'est comme un job de 35 heures parfois. Et puis quand on est un peu plus libéré par nos études, je vois moi l'année dernière dans mon ancienne association, on organisait un festival. C'était 18 000 étudiants qui venaient, c'était des artistes internationaux, donc c'était vraiment un gros truc. Et là, j'avais plus de cours et c'était une semaine entière où j'étais de 6h à 23h, minuit, voire 1h à la fac, en train de préparer un projet immense comme ça.
Pour ma part, c'est un temps plein à côté de mes études, en fait. Hein. Et après, il n'est pas rare que vers 22h30, 23h, je reçois des coups de fil, soit de personnes qui ont besoin de me consulter pour telle ou telle chose, ou alors qui me disent des fois, et c'est déjà arrivé, viens à tel endroit, il s'est passé ça, il y a telle personne qui veut te parler, c'est urgent. Donc quand c'est comme ça, on remet son manteau et puis on ressort. Mais oui, ça fait que je suis quasiment mobilisable tous les jours de la semaine, de 8h jusqu'à 22h30, 23h.
Au niveau de l'université, justement, pour aider ces étudiants qui, comme vous l'entendez, cumulent la vie d'étudiante, la vie d'engagée, parfois un emploi étudiant en plus, on a un service qui s'appelle le service phase, qui propose des aménagements pour ces étudiants-là. Au départ, il a été ce service ouvert pour les étudiants qui étaient en situation de handicap. Ensuite, il s'est ouvert aux artistes et aux sportifs de haut niveau. Et maintenant, c'est ouvert pour les étudiants engagés. Donc, mon discours aussi, c'est de les encourager à aller demander ces aménagements-là. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre enfin, oui, sur les trois, vous pouvez en parler. Voilà.
Oui, heureusement d'ailleurs que j'y suis sur le service phase, parce que, aux grandes dames de mes professeurs, on me voit peu en cours finalement. Donc, le service phase me permet de suivre les cours comme si j'y allais régulièrement et de me tenir quand même au courant de ce qui se fait et puis de ne pas arriver complètement perdu au partiel et même plutôt d'avoir validé mon M1 tranquillement. Donc
Oui, ça nous permet d'avoir les cours puisqu'il y a des gens qui sont des élèves, d'autres étudiants qui sont payés pour les prendre entre guillemets à notre place. Donc là, on a à disposition les cours si on n'y assiste pas. Et puis aussi d'aménager nos TD. De pouvoir choisir à quel créneau on le met pour pas que ça se mette à des créneaux où par exemple on n'a pas, mais ça permet aussi aux étudiants qui travaillent à côté par exemple de bénéficier aussi de ce service à plein de gens, même aux étudiantes qui sont mamans, à plein de personnes en fait, de pouvoir vraiment aménager leur emploi du temps. Il suffit juste de le justifier et c'est assez ouvert à beaucoup de personnes.
Parce que comme on l'a dit, c'est hyper chronophage. Je sais pas si on peut utiliser ce mot parce que c'est pas du temps perdu, c'est du temps hyper bien utilisé, mais on sait qu'on avait fait une émission du coup sur la précarité étudiante. On sait que parfois les étudiants ont du mal à remplir leur frigo. Est-ce que c'est facile du coup d'accorder le temps des études, le temps plus associatif? Du coup, est-ce que vous connaissez des gens dans les associations qui arrivent à cumuler en plus un emploi pour remplir le frigo et c'est faisable ou pas?
C'est très compliqué, mais c'est faisable, ça existe. En association, on est une équipe. Donc si l'un d'entre nous doit prendre un job étudiant pour X raisons, qu'il doit quand même cumuler aussi avec son mandat et ses études, l'équipe, tous ensemble, on va essayer de le décharger un petit peu de toutes ses tâches et de l'aider au maximum pour qu'il puisse cumuler cet ensemble.
Et puis c'est l'étudiant lui-même qui ne va pas prendre le poste de la présidence de l'asso s'il sait qu'il a un travail à prendre à côté aussi. Ce sera des postes un peu plus bas dans l'échelle de l'organigramme, merci, pardon. On va essayer de le décharger, comme tu dis. Puis après, il y a les autres petites mains qui peuvent toujours aider. Enfin, c'est un travail d'équipe dans tous les cas, donc voilà.
En ce qui concerne mon engagement de vice-président étudiant, c'est un peu différent. Comme je suis personnel politique, on a une petite rétribution quand même pour justement qu'on ne soit pas complètement livré à nous-mêmes, parce que c'est vrai que ce serait impossible de cumuler un travail plus la vice-présidence plus les études. Enfin, à un moment donné, il faudra choisir.
Ouais. Et justement, quand on est autant engagé que vous, quand on est aussi étudiant, est-ce qu'on arrive à aller boire un verre le soir ? Est-ce que vous avez vos week-ends aussi ? Est-ce que le week-end, vous arrivez à déconnecter ou pas du tout ?
Pas plus tard que ce dimanche, j'ai demandé à quelqu'un d'arrêter de marteler. Il y a un prestataire qui veut qu'on fasse une soirée avec eux. Il m'a appelé 3 fois dimanche et je lui ai envoyé un message. Non, le dimanche aussi, c'est off dans l'associatif. S'il vous plaît, laissez-moi dormir. bien sûr que si. Parce que de toute façon, comme je dis, c'est un travail d'équipe. Mais finalement, l'équipe de l'association devient aussi ton groupe d'amis. Donc au-delà de ça, bien sûr, il faut faire des pauses. Sinon, on ne tient pas. Il faut faire des pauses.
Ça dépend de notre emploi du temps, de comment on s'organise. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien aussi bosser le week-end, ça m'occupe. Donc, ce soit les cours ou mon engagement étudiant, je peux faire ça le week-end. Mais c'est même conseillé de pouvoir se détendre, aller boire un petit verre le soir. Ça permet de renforcer la cohésion qu'on a dans l'association, ou voir d'autres amis, se détacher un peu de tout ça. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir des discussions informelles pour se partager des informations, des tips, des solutions à tous nos problèmes qu'on peut rencontrer et que nos collègues associatifs rencontrent aussi.
Comme l'a dit Lucie, c'est vrai que quand on est dans un groupe associatif, très rapidement, les personnes avec qui on est le plus souvent, c'est avec ce groupe associatif. Moi, je vois aujourd'hui ma meilleure amie, quand elle vient régulièrement à la maison prendre un verre, ça embête son compagnon et le mien, parce que on parle associatif en vérité, parce qu'elle vient de l'associatif aussi. Mais on finit toujours par parler associatif.
Mais c'est là que je trouve que c'est aussi pertinent et très important d'avoir des amis en dehors de l'associatif pour pas garder la tête dans le guidon, en fait, constamment. Aussi penser à autre chose, parce que des fois on est tellement dedans qu'on a l'impression que c'est la finalité de notre journée, alors que finalement ça permet aussi de relativiser sur des problèmes. Voilà, on va avoir un problème de trésorerie, on va y penser toute la journée, devoir gérer je ne sais pas n'importe quelle galère, on va y penser toute la journée, et juste sortir avec d'autres gens qui sont pas du tout dans ce monde là ça permet vraiment de couper, de penser à autre chose et de dire bon, finalement demain est un autre jour, ça ira mieux demain et tout ira bien, quoi.
Okay. Et psychologiquement, alors je sais pas vous si ça vous est déjà arrivé ou si vous connaissez, mais est-ce que ça arrive des fois qu'il y ait besoin de faire vraiment une pause dans l'associatif ou pas forcément? Enfin, j'ai l'impression qu'en vous écoutant, c'est quand même en fait c'est un travail à temps plein, quoi. C'est compliqué, donc allier ça avec ses études et tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y en a des fois, il faut qu'il fasse une pause?
Bien sûr.
Ça arrive des fois.
Mais comme ça arrive à tout le monde dans le monde du travail, des fois de dire là c'est trop, c'est stop. C'est pour ça que moi ça me tient énormément à cœur d'avoir mes moments où je mets mon téléphone en ne pas déranger et je vais faire une activité juste pour moi toute seule dans ma bulle pour couper. Et je trouve que c'est tout le monde. Et je veille à ce que le reste de mon bureau le fasse aussi. Parce que de toute façon, quand on est trop dedans, au bout d'un moment ça marche plus. On n'est plus productif, on n'est plus créatif. On n'est plus même. Les relations internes vont impacté de tout ça. Si quelqu'un est très tendu et quelqu'un est très sur les nerfs, ça va jouer sur le moral de toute l'équipe. Donc c'est important que tout le monde ait ses moments pour se reposer aussi. Enfin, même, je leur dis souvent, dormez bien. C'est très important, quoi. C'est manger bien, dormez bien. Vous faites tellement de choses dans votre journée que... Enfin, c'est comme un sportif, quoi. Il faut être bien tout seul pour pouvoir que ça profite à tout le reste de l'équipe, quoi.
Et puis, ça dépend aussi des postes. Il y a des postes où on va avoir des moments de rush pendant une ou deux semaines où là, ça va vraiment être intense, où on va vraiment beaucoup bosser. Et puis, des périodes pendant peut-être un mois où ça va être plus tranquille. Bon, il n'y a pas de projet comme ça à faire. Il n'y a pas de mission spécifique. Voilà, c'est l'occasion de soit faire une pause, de se reconcentrer plus sur soi-même. Donc, et puis, il y en a qui juste demandent à pouvoir faire une pause. Ils terminent leur boulot. Et puis, c'est quelqu'un qui peut reprendre derrière. C'est toujours un travail d'équipe et essayer de s'entraider et de se soulager.
Puis oui, comme tu dis, il y a des périodes de plus ou moins importantes. Hein. Septembre, c'est la rentrée, donc bien sûr, il faut qu'on soit actif, il faut qu'on se montre, il faut que les étudiants nous rencontrent. Mais décembre, c'est la période de partiel, on est quasiment inactif, plus trop présent. On est chacun dans notre bulle pour gérer notre partiel et on reprend notre casquette. Enfin, moi, j'utilise souvent cette expression de casquette. On redevient Lucie ou on redevient la présidente. Et là, je l'enlève et je suis Lucie et il n'y a plus que valider mon semestre qui compte. Quoi. Donc oui. On a aussi ces moments où c'est plus ou moins intense et ce qui nous permet aussi de nous forcer, entre guillemets, à dire aussi, bah là, on laisse un peu de laisse.
Ok, très bien. Et j'avais aussi une question par rapport aux associations. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, peut-être vous pourrez m'éclairer sur ça. Pour qu'une association soit, je ne sais pas comment ça marche, le renouvellement, est-ce qu'il y a des contrats, des critères, par exemple d'activité ou quoi, pour qu'une association continue d'être aidée, continue d'être active ou acceptée sur un campus? Je ne sais pas s'il y a des choses comme ça. Est-ce que, par exemple, il faut qu'il y ait un minimum de 10 membres, je dis n'importe quoi, pour qu'elle soit acceptée, ou un minimum de temps d'action dans l'année pour qu'elle soit validée l'année d'après?
Alors là, ça va rentrer directement dans la procédure de domiciliation des associations. On va dire que pour qu'une association soit domiciliée à l'Université de Bordeaux, il faut que la majorité des membres soient de l'Université de Bordeaux, ce qui est logique, a priori, son objet apporte à l'Université de Bordeaux, qu'elle s'engage au sein de l'université sur n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être du festif, ça peut être du social, il n'y a pas de limite à ça. Et ensuite, ça passe devant une commission qui examine ces critères-là. La domiciliation, si je ne dis pas de bêtises, et je suis désolé parce que je le dis de tête, mais c'est 6 ans. Tous les 6 ans, ce sera réexaminé. Et ensuite, on a l'hébergement, donc avoir un local à l'Université de Bordeaux. Et là, c'est du coup un questionnaire, un tableau vraiment avec des points qui vont permettre de voir si il y a eu un investissement de la part de l'association qui justifie d'avoir ce local-là. Mais en aucun cas, par contre, c'est l'université qui décide de la création ou de la destruction d'une association. Les associations existent à la préfecture, en dehors de l'université.
Et dans tous les cas, il n'y a pas non plus de contrat écrit de « il faut faire tant d'heures » ou de ceci, cela. C'est en fonction de l'association, de ce qu'elle veut faire, de ses projets. Et on ne va jamais forcer un bénévole à faire un projet. On est bénévole avant tout, on ne va pas se forcer à continuer nos heures, etc.
Et au niveau du renouvellement d'une équipe, évidemment, un moment, j'espère pour vous, vous allez finir vos études. Et donc, à ce moment-là, comment on fait pour que la passation de pouvoir se passe en douceur et efficacement pour remplacer un président qui va arrêter ses études? Ou est-ce que c'est possible de continuer à être engagé dans l'association, même quand on n'est plus étudiant?
Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, la passation, c'est toujours un grand moment à passer. Alors, ça dépend des associations. Il y en a où ça va être un renouvellement complet du bureau, du mandat, où là, ça va être que des nouveaux de l'association. Donc, ça va être aux anciens de bien leur dire comment faire, c'est quoi les missions, comment ça se passe. Et puis, il y a des associations où ça va être... il y en a qui partent, il y en a qui arrivent et il y en a qui restent. Et dans ces cas-là, la passation peut se faire un peu plus longue sur la durée, où les anciens vont guider un peu les nouveaux et petit à petit, ils vont apprendre. Et comme ça, l'année d'après, ça va continuer. Il va y avoir une passation d'informations.
Oui, puis ça, je dirais que c'est sur le long terme. Moi, je le vois, en première année, j'étais juste, j'ai aidé sur des petites missions. En deuxième année, j'ai intégré le bureau en étant vice-présidente des partenariats. Et à la fin de l'année, là, en troisième année, j'ai décidé de prendre la présidence. Donc aussi, c'est des gens qu'on va essayer de garder tout au long de leur année, leur apprendre. Et ça dépend aussi de la motivation de l'étudiant, s'il a envie de prendre le poste. Mais je dirais que là, c'est tous les... Donc ça suit l'année scolaire. Hein, donc je dirais que c'est à partir de juin-juillet que les assos étudiantes, du moins, renouvellent leur mandat, la plupart du temps, ça peut aussi être en septembre, octobre. Ça dépend de comment fonctionne l'association.
Même en janvier.
En janvier aussi. C'est... Bon, ça dépend vraiment. Oui. Nous, en tout cas, c'est en juin, juillet. Donc moi, j'ai pris mon poste en juillet. Mais je sais que là, je regarde déjà un petit peu les petits nouveaux et on essaye déjà de les avoir un peu sur le coup, de leur montrer, alors regarde, un budget, ça se fait comme ça. Oublie pas. Pour bientôt, ça. C'est bientôt à toi.
Il y a un intérêt de recruter dès la première année, les étudiants de première année, où parfois c'est possible qu'un étudiant s'engage, il se rende compte qu'il a du temps et qu'il a envie de donner sa personne. Il y a des étudiants qui arrivent en dernière année.
Bien sûr. Oui. Mais parce qu'après, c'est encore une fois, c'est du don de soi. Donc si tu viens hyper motivé, avec une folle envie d'apprendre, rien ne va t'empêcher d'apprendre. Comme il y en a qui préfèrent d'abord être observateur et au fur et à mesure des années, s'investir plus ou moins. Mais il y en a qui peuvent arriver en troisième année. Et on a encore rencontré des gens à la rentrée en master qui voulaient absolument venir. Mais donc, c'est tant que tu as envie, moi, je pense que ça t'en empêche pas.
Quel que soit l'âge.
Oui. Ouais.
Et pour compléter un petit peu sur la passation de pouvoir, le passage des plus vieux vers les plus jeunes, si je prends l'exemple de la Fédération Athéna, il y a par exemple une association qui a été créée pour justement les personnes qui, les vieux en fait d'Athéna, on va dire, donc l'association ERA qui est là justement pour les réunir et puis qui reste un petit peu à portée de main en quelque sorte, qui est ce réseau qui se fasse toujours. Et ça permet aux plus jeunes, des fois, d'aller contacter les plus vieux pour des conseils.
Absolument.
Et puis ça permet aussi d'empêcher que les plus vieux restent stagnés dans l'association. Et ça aussi, c'est un vrai problème des fois, parce qu'ils ont du mal à lâcher les rênes. Et il faut des fois laisser justement les plus jeunes faire leurs propres expériences.
Alors justement, donc, ça veut dire que même si on n'est plus étudiant et qu'on a fini, on peut rester quand même quelques années ou pas trop, faut éviter.
Ça dépend des associations.
Ça dépend des statuts aussi des associations.
C'est ça.
Moi, je sais que dans nos statuts, on demande à ce que les personnes du bureau soient inscrites à l'université et donc soient étudiants.
Et pour les membres ?
Pour les membres, non. Par contre, on peut être adhérent, même venant d'un autre campus, etc. Mais pour être dans le bureau, il faut être étudiant au campus d'ESPEC, donc le campus droit, sciences, économie, gestion.
Pour ma part, par exemple, j'ai fait partie de l'association des psychologues étudiants où j'ai été en charge des partenariats. Quand j'ai voulu partir de l'association, ils m'ont nommé membre d'honneur, ce qui fait qu'en fait, je suis membre à vie de l'association. Je ne peux pas en partir. Même si je souhaitais, je ne peux pas partir de l'association.
Ok.
Donc, et voilà. Puis, il y a toujours, justement, quand on part de l'association, les nouveaux, ils cherchent aussi des informations de comment ça se passe, etc. Donc ça dépend du comportement de chacun, mais voilà, il y en a qui restent pour donner des conseils. Et même si on n'est plus étudiant, on peut quand même jeter un petit coup d'œil, voir avec eux.
Ok. Et bon, potentiellement la dernière petite question que j'ai à vous poser, parce que bon, on arrive déjà à l'heure presque, ça passe vite. Je me disais, imaginons qu'on ait des gens qui nous écoutent et qui souhaitent rentrer en tant que bénévole, à quoi ça ressemble les missions d'un bénévole ? Peut-être qu'ils n'arrivent pas trop à s'imaginer ou qu'ils ne savent pas trop. Est-ce que vous avez des exemples un peu qu'on peut citer pour qu'ils puissent s'imaginer un peu le rôle de bénévole ?
Ça dépend beaucoup de l'association. Chaque association est très différente dans ses projets. D'abord, je lui conseillerais de se renseigner un peu sur quel asso il voudrait intégrer, sur ce qu'il y a à faire. Et se renseigner, c'est aller les voir. Mais les missions en général, pour des assos qui font des week-ends d'intégration, des galas, des soirées, ça va être de l'organisation événementielle. Donc ça va être... un peu de tout, préparer des tables, préparer des repas, des petites cartes, faire des crêpes pour des stands, ça peut être un peu de tout. Et ça peut être un peu plus poussé aussi, ça va être appeler des prestataires pour avoir des devis, rappeler pour avoir une facture, prévoir les dates, réfléchir tous ensemble en réunion de... qu'est-ce qui est le mieux pour placer cet événement ? Est-ce que c'est mieux le vendredi, le jeudi ? Est-ce que c'est mieux ce week-end ? Ah non, il y a le partiel, faut revoir. C'est un peu de tout. C'est très hétérogène.
C'est faire de la communication, imaginer un budget, contacter des gens. Ça peut être de tout. Il faut s'imaginer... c'est comme organiser un mariage, des fois, je me dis. Il faut contacter tous les prestataires, réfléchir à la décoration, réfléchir à plein de choses, finalement. Et on a besoin d'être sur des petites missions comme des grandes missions. Nous, par exemple, voilà, on a une vente de gâteaux lundi. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont passés au local, nous demandaient comment ils pouvaient nous aider. Il faut des gens qui tiennent le stand, il faut des gens qui ramènent des boissons, il faut des gens qui achètent du café, il faut des gens qui fassent des gâteaux. Donc voilà, après...
On a toujours besoin de monde et il y a toujours plein de missions à faire.
Merci beaucoup pour ce petit témoignage. Notre émission va toucher à sa fin. Peut-être avant de terminer, rapidement, si vous avez des échéances qui arrivent ou des événements pour faire votre petite pub, je ne sais pas.
Je pense que moi, l'échéance que je peux citer, c'est du 28 au 30, il y a les élections universitaires qui arrivent. C'est les élections des composantes.
Merci, merci.
Voilà, donc c'est important d'aller voter quand on est étudiant. Ça peut sembler nébuleux, mais c'est ce qui permet d'avoir voilà, les élus étudiants qui vont se prononcer sur les grandes questions de l'université et sur vers quoi l'université va tendre en termes de politique.
Et puis même les soutenir et parler de leurs besoins, parce qu'on a beaucoup de gens, nous, qui viennent nous voir au local. Oui, là, ils ont placé les parcelles à ce moment-là, c'est n'importe quoi, comment ils se sont organisés, on n'est pas contents parce que ça fonctionne comme ça. Mais justement, c'est auprès des élus étudiants, parce qu'on n'en a pas parlé, mais par exemple, moi, je suis aussi élue étudiante à côté, et siéger, c'est le moment où on peut entendre notre voix, où on est en face du doyen, du président de l'université, de n'importe quel acteur, et de pouvoir lui dire, moi, les étudiants m'ont fait ce retour-là, voilà, en tant que ressenti étudiant, qu'est-ce qu'on en pense ? Donc oui, les élections étudiantes approchent à grands pas. N'hésitez pas à soutenir vos associations étudiantes.
Le principal sujet, mais oui, parce qu'on est là pour représenter et défendre. Et l'université nous laisse cette place pour nous exprimer à nous étudiants. Et autant s'en saisir pour améliorer les études, la vie étudiante au maximum.
Eh bien, merci beaucoup à vous quatre pour cette émission et cette discussion plus qu'enrichissante. Merci à Nico à la régie, merci à Pierre qui nous a aidé à la réalisation de cette émission, merci à Yon d'avoir co-animé avec moi. Vous pourrez réécouter l'émission sur le site d'Aude Radio et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro de Jeunesse Influente. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt sur Aude Radio.
C'était Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis 14h-15h, à retrouver en podcast sur eauderadio.fr.